Et c'est une nouvelle semaine de découverte au cœur du Limousin que je vous propose dans un site emblématique de la capitale régionale. Nous sommes ici installés au cœur du cimetière de Louya grâce à notre guide Marie-Noël Caradopère qui est avec nous, guide conférencière à l'Office de Tourisme de Limoges. On va remonter plus de 200 ans en arrière et avant de parler du cimetière de Louya, c'était plutôt les cimetières d'une manière générale.
Oui, puisque à Limoges, il y avait près d'une quinzaine de cimetières et ils étaient vraiment intégrés dans la ville, ils étaient autour des églises. Et puis pour des raisons de salubrité publique, d'hygiène publique, eh bien nous allons avoir un cimetière, un premier grand cimetière qui se trouvait près des arènes, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent le jardin d'Orsay, la gare routière actuelle, près de la place Winston Churchill. Et ce cimetière en 1800 va vite s'avérer trop étroit, ce qui fait qu'en 1806, on ouvre un autre cimetière qui va peu à peu s'étendre pour arriver aujourd'hui à 35 hectares, c'est-à-dire un des plus grands cimetières de France, mais pas vraiment le plus grand.
Ah, c'est une légende, hein. On dit souvent le cimetière de Louya, c'est le plus grand cimetière de France quand c'est pas pire. Ça, c'est vraiment une légende qu'on a du mal à faire changer.
Oui, c'est un grand cimetière. Il y a 40 000 sépultures. Ça fait à peu près 200 000 personnes, certes. Mais le cimetière, en fin de compte, il est intégré dans la ville. Regardez tout autour, les maisons ont été construites, des quartiers se sont développés, alors qu'au départ, il était sur cette butte un petit peu isolé, à l'extérieur de la ville, du cœur de ville.
On s'y perd parfois un peu, là on est face au plan, il y a des allées, il y a un nombre d'allées considérable, 35 hectares on l'a dit, il faut quand même avoir un petit sens de l'orientation.
Vous savez, avant de réaliser ces visites, mes collègues et moi-même nous arpentons pendant quelques heures les allées du cimetière pour faire un repérage entre les sections, ces allées qui pour certaines ont des noms charmants de fleurs, et puis pour repérer les monuments, les plaques les plus emblématiques que nous voulons présenter.
Effectivement, les personnalités, les plaques, ce sont des sujets qu'on va évoquer ensemble tout au long de cette semaine. Simplement, vous disiez section. Dans ce cimetière, il y a des sections particulières.
Oui, sont regroupés effectivement des militaires dans certains carrés, dans certaines sections. Une section, c'est un petit îlot, c'est un petit, on va dire, un petit quartier qui est délimité par des allées. Donc tout est repérable sur les plans qui sont préparés et proposés au public par la ville de Limoges. Le jardin du souvenir aussi pour ceux qui dont on n'a pas les tombes ou alors pour disperser des cendres. Il y a aussi des sections dans lesquelles on va présenter un monument pour ceux qui ont donné leur corps à la science. Des sections aussi où on va regrouper des enfants, par exemple, des jeunes enfants, ou alors des gens, des personnes avec des cultes qui veulent être tous rassemblés.
Ça veut dire qu'il y a quand même ici des sépultures familiales qui remontent, on a parlé de 200 ans d'histoire pour ce cimetière, il y a des sépultures qui remontent à ce début 1800.
Oui, il y a des sépultures anciennes, oui. Ça dépend aussi du système que vous avez pris, c'est-à-dire est-ce que vous avez pris une concession, pour quelle durée, à perpétuité ou une durée plus courte. Et puis ça dépend aussi, quelle que soit la durée de la concession, de l'entretien par la famille, et bien du tombeau.
Et puis on l'a dit, on a souvent la réputation d'être le plus grand cimetière de France, ce qui n'est pas vrai, on rétablit les vérités aujourd'hui. Certains sourient en disant qu'il y a presque plus d'habitants au cimetière que dans la ville de Limoges. Ça, si, c'est la petite blague qui est liée à l'histoire du cimetière.
C'est ce que l'on dit parce que c'est lié au nombre de sépultures et puis au nombre supposé de corps qui sont à l'intérieur, oui.
C'est les jaloux qui parlent simplement.
Si vous voulez.
Notre deuxième rendez-vous à la découverte de la grande et des petites histoires du cimetière de Louya dans lequel nous sommes installés avec notre invité guide Marie-Noël Caradopère. Je rappelle que vous êtes guide conférencière à l'Office de Tourisme de Limoges. On va s'arrêter sur sans doute la plus grande particularité de ce cimetière de Louya à Limoges, qu'on pourrait appeler le cimetière de porcelaine. Ce sont ces plaques funéraires en porcelaine, mais il y a plaque et plaque. Il y a vraiment énormément de formes, de styles et tout cela est très parlant également.
Oui, puis regardez, nous sommes là ce matin avec un éclairage dû au soleil. C'est superbe. Toutes les stèles qui sont vraiment érigées, très verticales. Et ces plaques qui ont des formes circulaires, des formes rectangulaires, des formes ovales, qui décorent, qui illuminent les stèles de granit. Si on s'en approche, on va voir un décor différent, bien entendu. On va voir un décor techniquement parlant, soit de petits feux, soit de grands feux.
Donc ça, ce sont des techniques de cuisson de porcelaine?
Voilà, technique de cuisson et technique de décor. C'est-à-dire qu'on va cuire plus ou moins à une température plus ou moins élevée. Et puis le décor de grand feu, c'est surtout pour le bleu de cobalt. Par contre, le petit feu, c'est pour toutes les autres couleurs. Et imaginez, dans leur atelier, les peintres qui, au fil de toutes ces décennies, vont faire un décor particulier, unique pour chacun des défunts. Ça leur est commandé par la famille, très vraisemblablement, par les héritiers, et va faire un décor qui va être inspiré peut-être d'une autre plaque, qui va peut-être inventer, mais qui va toujours être unique parce qu'il correspond à une seule personne.
Alors on peut apercevoir par exemple des paysages, tout simplement, pour le côté reposant peut-être.
Oui, alors des paysages, la nature, le jardin du défunt, et le défunt représenté même dans son jardin, en train de donner à manger aux oiseaux. Ou alors un paysage plus symbolique, des conifères et puis des saules pleureurs. Alors le saule pleureur, il pleure, c'est le chagrin. Mais le conifère, avec son feuillage persistant, ça peut être aussi perçu comme étant le symbole de l'éternité. Le saule pleureur, lui, il renaît tous les printemps, c'est le symbole de la résurrection. Et puis quelquefois, ce sont uniquement des mots, l'état civil, nom, prénom, né-le, décédé-le à tel endroit. Ou alors, on enrichit la plaque en donnant un attribut, un mot expliquant le métier. Tel a été chirurgien à la prison de Limoges, par exemple. L'attribut d'un franc-maçon. On peut indiquer que celui-ci a été un historien. On peut aussi dire que cette jeune femme a été diplômée, future enseignante. Ça, il faut le distinguer. C'est tout à fait remarquable et c'est pas évident à voir sur la plaque.
À l'époque, la femme était surtout mère au foyer, hein.
Oui, elle est bonne épouse et bonne mère.
Et puis il y a, au-delà des symboliques, parfois, les portraits des défunts qui ont, je parlais de tenue dans le temps de ces plaques de porcelaine. Là, c'est absolument bluffant. On en a face à nous un homme, une femme. C'est remarquable.
Oui, alors, il y a deux types quand même de portraits. Il y a le portrait peint à la main, effectivement, qui va se décliner dans la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis, le portrait céramique va se faire de façon plus standardisée, c'est-à-dire à la machine, portrait photocéramique, et ce, avec la guerre de 14. Parce qu'en fin de compte, toutes les familles qui avaient eu un fils qui est parti à la guerre et qui n'en est pas revenu, et dont ils avaient un portrait, vont utiliser ces portraits pour les faire imprimer sur des plaques funéraires. Et on va les voir se développer un petit peu partout en France.
Et puis alors, juste à côté de nous, il y a un monument qui retient l'attention. On parle beaucoup des plaques de porcelaine, par exemple, sur celui-ci qui est à la verticale. Il n'y a pas, face à nous, de plaques de porcelaine à proprement parler. Les noms sont simplement gravés dans la pierre. Et à l'arrière, en revanche, on va découvrir ces petites plaques et qui ont là une vraie symbolique absolument remarquable.
Oui, vous trouvez pas que c'est touchant? Regardez, famille importante, ces noms gravés dans la pierre qui disparaissent. Et puis au dos de la stèle, vous avez deux petites plaques, toutes modestes, qui indiquent que ici reposent, avec cette même famille au service de laquelle elles ont été, les deux servantes. Et du coup, c'est les plaques, c'est les noms des servantes qui restent alors que les noms de la famille sont en train de disparaître, érodés par le temps. C'est touchant, non ?
Troisième rendez-vous cette semaine dans un site emblématique de la région et de la capitale régionale précisément. Nous sommes à Limoges ici, au cimetière de Louya, en compagnie de notre guide Marie-Noëlle Caradopère. On va parler d'architecture avec des monuments assez particuliers ici qui sont à découvrir.
Je trouve que dans la partie la plus ancienne, il y a un petit peu plus d'originalité parce que il y a des monuments sous forme de chapelle, il y a des monuments qui ont la forme de pyramide, certains représentent la nature en béton. Regardez ici, c'est un cimentier qui a fait faire ce tombeau. Ce sont des fausses branches, ce sont des faux arbres.
C'est bluffant, hein.
Là-bas, c'est un ferronnier qui, un peu pour faire aussi de la publicité pour son savoir-faire, hein. Le tombeau est encadré d'une très belle ferronnerie avec une petite porte. Certains représentent les murs d'une église. On met la stèle verticale à la place de l'autel, comme dans une église. D'autres, comme les gens du voyage, installent des verrières. Voyez-vous, ça fait des petites maisons dans lesquelles ils mettent un mobilier aussi pour le défunt. Donc chacun a son style, un petit peu comme chez nous, comme nos maisons.
On a parlé des fausses branches de ce monument-là. on a des arbres, de vrais arbres également, qui surplombent certaines tombes. Ça aussi, c'est assez curieux.
Oui, alors, ces vrais arbres, ce sont en général des cèdres pleureurs. Aujourd'hui, ceux qui restent, on les apprécie d'autant plus qu'ils sont les témoins d'un passé qui n'existe plus. Pour la bonne raison, c'est que ce cimetière, c'était un cimetière beaucoup plus arboré, beaucoup plus végétal. Il y avait des arbustes, il y avait des arbres, des châtaigniers, des cerisiers, toutes sortes d'arbres. Et ils ont entraîné tellement de dégâts dans les tombes que, à partir de la mi-19e siècle, on a commencé à les couper, à remplacer par du mobilier type couronne. Voyez-vous, couronne de céramique, couronne, vous vous souvenez des petites couronnes de perles? On n'en voit plus beaucoup maintenant. Et puis surtout, le mobilier propre à Limoges, ce sont les plaques de porcelaine, bien sûr.
Ça veut dire aussi qu'on a parfois des véritables sculptures. On passait à l'instant devant un tombeau absolument magnifique d'un sculpteur avec une sculpture absolument sublime. On ne sait pas forcément bien ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise, mais on sent qu'elle est chargée d'histoire en tout cas.
Oui, il y a des tombeaux un peu particuliers comme celui-ci, comme aussi l'un d'un historien avec une lanterne des morts. La lanterne des morts, on en retrouve encore, il y en a plus d'une dizaine en Haute-Vienne. Et donc, c'était une petite tour, c'est une petite tour qui est dans le cimetière, en haut de laquelle il y avait une lampe qui signifiait aussi que la lumière restait là, et ça indiquait aussi la présence de la vie.
Certains peuvent se dire, quand on voit une grande chapelle, quand on voit un monument plus important, que c'était lié aux finances, au rang social de la famille. C'est ce que ça veut dire ou pas forcément?
Oh, on peut le concevoir. C'est probablement plus lié, effectivement, au fait qu'avant la Révolution française, eh bien, les aristocrates avaient les moyens de se faire enterrer dans l'église ou dans le cimetière, mais au plus proche de l'église. Et lorsque le cimetière va être un cimetière laïque, va être un cimetière ouvert à tout le monde, ils perdent ce privilège, d'autant que les cimetières s'éloignent des églises. Alors, quand vous refaites une église comme ceci, une petite chapelle dans le cimetière, eh bien, vous pouvez y mettre un hôtel, vous pouvez y avoir des messes, des célébrations, même intimes, il suffit qu'il y ait un membre de la famille, mais ça rappelle ce privilège qu'on avait de se faire enterrer dans un bâtiment qui avait une belle allure architecturale.
Pour terminer sur une note un peu légère, si on vient ici au cimetière de Louyat à Limoges, on peut découvrir la tombe d'Adam et Ève, ça ne se voit pas partout.
Ah, effectivement, il faut venir la chercher, hein, parce que bon, il y a une petite subtilité quand même. Hein.
Adam et Ève, sur leurs traces, ici au cimetière de Louyat, on vous laisse rechercher cette tombe particulière. Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine dans l'histoire, la belle histoire du cimetière de Louyat ici à Limoges, avec Marie-Noëlle Caradopère qui nous sert de guide conférencière à l'Office de tourisme de Limoges. On a beaucoup parlé d'architecture, de ces bâtiments, de ces plaques de porcelaine. Il faut évidemment parler également de ceux qui reposent ici. Parmi les 40 000 sépultures ici, il y a quelques personnalités avec, pour certaines d'entre elles, on parlait de porcelaine, des petites particularités qui peuvent surprendre.
Oui, la particularité, c'est que sur la plupart des tombeaux des porcelainiers enterrés à Limoges, il n'y a pas de porcelaine. Voilà, on fait dans la sobriété. On a un monument qui peut être remarqué parce que il est situé le long d'une allée principale ou à l'entrée du cimetière. C'est des monuments qui sont remarquables par exemple leur architecture, mais il n'y a pas de porcelaine.
Alors des porcelainiers évidemment à Limoges, mais pas seulement, il y a quelques personnalités remarquables dans tous les domaines artistiques notamment.
Oui, oui, oui. Alors il y a parmi les personnalités effectivement, outre les porcelainiers, il y a des émailleurs, des peintres, un cinéaste, un photographe, comédien, architecte. Des personnalités dont on retrouve les noms dans les rues de Limoges. Des personnalités telles que des historiens, des maires de Limoges, bien entendu. Et puis, nous avons aussi des circuits, et je dis circuits intentionnellement, de militaires, de toutes ces personnes qui ont fait partie de l'histoire locale et de la grande histoire de Limoges et de France. et qui repose ici.
C'est pas le Père Lachaise où il y a des cars touristiques qui viennent effectivement découvrir les tombes de personnalités, mais là on peut prendre le temps justement de découvrir des tombes de nos personnalités, de ceux qui ont marqué notre histoire, avec ce plan, je l'ai dit, donc qui nous guide un petit peu dans les différentes allées avec des numérotations.
Oui, c'est un plan qui a été fait par la ville de Limoges et qui permet effectivement de se faire soi-même un circuit en fonction des monuments remarquables ou des personnalités vers lesquelles on veut se diriger. Donc c'est très clair, il y a une numérotation et il est disponible à l'accueil du cimetière et à l'office de tourisme de Limoges et il est gratuit.
Et puis on précise qu'il y a également des visites guidées, vous êtes bien placé pour nous en parler, qui sont organisées où avec vous on va pouvoir aller, voilà, comme on le fait depuis le début de la semaine, un petit peu au-delà simplement de la découverte de l'œil, mais vous allez nous faire découvrir des choses que l'on n'aurait peut-être pas repérées, devant lesquelles on serait passé sans y prêter garde.
Oui, à poser le regard sur quelque chose qui peut être très banal, très commun. Et puis en même temps, je crois que c'est une invitation à revenir par soi-même pour faire sa propre visite au fil des plaques, au fil des monuments.
C'est-à-dire qu'on retrouve les défunts peut-être de sa propre famille. On se retrouve aussi finalement un petit peu face à soi-même dans cette ambiance-là.
Ah oui, pour moi c'est tout à fait évident. La visite du cimetière n'est pas une visite comme les autres. Parce qu'à un moment donné, on se pose nécessairement la question de savoir « et moi ?» Et ce que j'aime, ce dont je m'occupe, ce qui m'entoure, que va-t-il advenir ?
Donc c'est un moment de réflexion en tous les cas qu'on vous invite à venir partager. Pour terminer d'ailleurs sur cet avant-dernier rendez-vous, votre premier souvenir, vous, lorsque vous êtes venu ici au cimetière de Louga, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quel souvenir vous en gardez ?
La première fois que je suis venue ici, c'était avec mon collègue Jean-Michel Imbert et j'ai été bien entendu passionnée, comme il l'était, par la découverte de ce cimetière, par l'intérêt qu'on pouvait y porter. Un site passionnant dans lequel j'apprécie de venir pour faire des visites.
Et avec l'envie maintenant de transmettre cet émerveillement et cette passion qui est la vôtre ?
J'essaye, oui.
Notre dernier rendez-vous cette semaine au cœur du cimetière de Louga, nous découvrons ici installé à Limoges avec Marie-Noëlle Caradeau-Père, guide conférencière à l'Office de tourisme de Limoges. Ce cimetière, il a énormément évolué en plus de 200 ans, on l'a dit, hein, 35 hectares aujourd'hui. On peut continuer d'agrandir ce cimetière de Louga et est-ce que fondamentalement c'est ce qui attend la plupart des cimetières ou les choses sont en train de changer ?
Ce que moi je constate, c'est qu'effectivement il a évolué déjà dans sa taille, comme vous venez de le dire. Il a évolué aussi dans l'organisation des tombes le long des allées. Dans le cimetière plus moderne, les tombes sont toutes alignées le long des allées. Dans le cimetière plus ancien, la partie la plus ancienne, elles sont mises un petit peu de guingois et il n'y avait pas de plan d'alignement qui était respecté. Puis les matériaux aussi ont un petit peu changé. Parce que dans le cimetière ancien, c'est du granit, certes, pour l'essentiel, mais un granit un petit peu plus brut que dans le cimetière contemporain. Les tombes contemporaines, c'est un granit qui est poli, qui est lisse, qui est souvent brillant. Et vous voyez, ça fait beaucoup plus uniforme dans cette partie là-bas. Et puis, ce qui évolue, ce sont nos pratiques à tous. Un décès sur trois mène à la crémation. Donc ça nous concerne tous.
Ce qui veut dire que malheureusement, en perdant les cimetières, on perd aussi quelque part une partie de notre histoire, une partie de l'histoire de la commune.
Ah, est-ce que tout le monde est convaincu que l'histoire d'une commune se joue aussi au cimetière ? Moi, j'en suis persuadée, oui, j'en suis persuadée. Ça dépend aussi comment dans sa famille on a entretenu ce culte des ancêtres. Quand je dis le culte, c'est l'idée, la mémoire des ancêtres. Donc je pense que chacun nous réagissons différemment.
Ce qu'on peut dire aussi, et avant de refermer notre rendez-vous, c'est que ce cimetière de Louga, on ne sait pas comment il évoluera. Ce qu'on sait, c'est que grâce au cinéma, il a été imprimé sur pellicule. Nous en aurons, quoi qu'il arrive, un joli souvenir. Nous le devons à Patrice Chéreau.
Oui, il a pris en dernière image une vue aérienne de ce cimetière dans le film « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Prendront le train pour venir me saluer sur ma tombe, effectivement. C'est le cimetière de Louga où est enterré Reichenbach.
Donc, on vous invite à redécouvrir ce film sorti en 97, signé Patrice Chéreau. Et nous, on va continuer de profiter sereinement de cette balade ensemble, entourée d'un peu de verdure. Ça fait partie d'un paysage quand on remonte, puisque là nous sommes en train de remonter vers le haut de ce cimetière, entouré de grands arbustes qui font aussi partie de ce décor important.
Oui, vous avez vu le camélia là en fleurs ? Un vrai camélia, ce ne sont pas des fleurs artificielles. Et puis les ifs que l'on voit, il y a des rosiers, bon pour l'instant ils sont un petit peu dépouillés de leurs feuilles, puis des parties en pelouse autour des carrés des militaires. Voilà, et ce sont les agents municipaux qui entretiennent tout cela, qui mettent en valeur les allées et qui essayent que le mobilier aussi reste à sa bonne place.
Ce sont eux qui font que le cimetière de Louya est ce qu'il est aujourd'hui et qu'il possède la réputation qui est la sienne.
Sachant que le cimetière de Louya, il est connu quand même par des personnes qui s'intéressent à tout l'art funéraire. C'est une référence, effectivement. Et c'est une référence aussi par rapport à l'ouvrage qui a été réalisé il y a quelques années par les historiens messieurs Grandcoing et Ferrer, Funérailles de porcelaine.
Donc une référence à découvrir si ça n'est pas encore déjà fait.